de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know what's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est le mercredi 18 septembre et c'est l'heure du Canu Info et il est 19h passé de 5 minutes. Alors, les titres.
On commencera par une info sur le collège Barbus-Avaux-en-Velin où il y a une fin d'occupation.
Le directeur de la centrale de Tricastin met la pression aux antinucléaires.
Ensuite, on vous parlera de prostitution. Un rapport parlementaire préconise la pénalisation des clients.
On reviendra sur le bijoutier de Nice.
On écoutera une petite chanson.
Il y aura la chronique de Laurent Delabouze.
On apprendra qu'un rappeur a été tué en Grèce par l'aube dorée.
On parlera de la gestion de l'eau. Berlin ne veut plus de Veolia.
Ensuite, on parlera de la TVA sur laquelle apparemment il y aurait 32 milliards de manque à gagner.
Et la chronique, il faut que ça se sache. I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classrooms. Speak eloquent, though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban. Alors, tout de suite, Vaux-en-Velin, où il y a eu la fin d'occupation au collège Barbus. Mais je vais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Donc, les personnels du collège Henri Barbus ont occupé pendant 5 jours l'établissement et ont même organisé une journée de grève lundi pour tout ça, pour le relogement de 2 familles qui étaient sans domicile fixe. Donc la préfecture du Rhône a décidé de reloger ses familles et donc l'occupation s'est arrêtée. Mais toutes ces personnes qui ont lutté restent amères au vu du mépris avec lequel du coup les familles, tout comme les militants, ont été traitées, ainsi que les manipulations des services de la préfecture à leur encontre. Donc ils demandent maintenant que des solutions pérennes soient trouvées à proximité du collège. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lundi à 9h, après les 5 jours d'occupation, le directeur académique annonçait la réquisition de 2 logements dans les appartements du collège Jean Villard. Ce qui confirmait ce que le préfet a confirmé dans une interview à l'AFP le lundi matin et où il disait même que cette décision avait été prévue à partir du vendredi soir. Mais à 11h30, il n'était plus du tout question de réquisition. Et à 12h30, la préfecture déclarait à l'AFP que toutes les 2 familles seraient au centre d'hébergement d'urgence de Notre-Dame des Sans-Abris à Gerland. Ce qui change vraiment la donne, puisque les 2 logements prévus au départ étaient restés à Vaux, ce qui permettait aux familles et du coup aux enfants scolarisés d'être à côté de leur lycée. Et là, Gerland, ça fait tout de suite une heure et demie ou 1 heure de transport en commun. Donc, pour contrer ce revirement, les personnels ont mis en œuvre dès 13h30 un préavis de grève afin de rencontrer le préfet de la région qui les a reçus. Et alors là, c'est pas mal parce que monsieur André, directeur du cabinet de préfet, les a rencontrés et est resté de marbre devant les familles. Et je cite ce qu'il a dit. Les familles sont seules responsables de la situation dans laquelle elles se trouvent. C'est quand même pas mal de dire ça quand on est directeur de cabinet. Voilà. Et donc les familles ont un logement, mais elles sont éloignées puisque l'une est à Gerland et l'autre à Irigny. Donc personne n'a vraiment compris pourquoi la réquisition des deux logements proposés le matin, qui s'avérait la meilleure solution, n'a pas abouti. En tous les cas, l'occupation s'est arrêtée et les gens ne lâchent pas l'affaire puisqu'ils demandent maintenant de vrais logements et non des chambres d'hôtel qui soient attribuées à ces familles sur Vaud ou une commune limitrophe, et ils préviennent que s'il y a de nouveau des familles en situation de non-logement, ils se remettront en place des occupations.
Alors, on va parler de la centrale du Tricastin. La centrale du Tricastin, c'est celle qui est pas très très loin de chez nous là. Et ben, c'est Frédéric de Agostini, c'est le directeur de cette centrale nucléaire, qui a envoyé un mail à l'attention des services de sécurité de la centrale avec comme consigne claire de foutre la pression au prochain groupe de militants anti-nucléaires qui tenteraient de s'introduire sur le site. Alors cet email, il fait suite à l'intrusion de plusieurs militants qui avait eu lieu le 15 juillet dernier et qui avaient réussi à s'introduire sur le site et à poser plusieurs banderoles qui demandaient notamment la fermeture de cette centrale nucléaire. Je vais vous lire quelques extraits du mail qui est particulièrement agressif. Il commence par « Dans la période actuelle, je cite, une nouvelle tentative d'intrusion sur un site nucléaire pourrait être la stratégie des opposants pour enfoncer le clou et demander l'arrêt des installations. » C'est bien, au moins il a compris le message, quoi. Et ensuite, il demande de renforcer les accès au site. Il contextualise en disant « Nous sommes dans une guerre médiatique que nous devons gagner en cas d'intrusion sur le site Areva Tricastin. » Et là, il donne les consignes et je continue de citer « Prendre les mesures les plus strictes en cas de tentative d'intrusion sur le site. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je souhaite une photo d'un militant au sol, un chien sur lui, si cela devait arriver. » Le message à partager auprès des équipes est donc clair. Vigilance renforcée, action immédiate en cas de tentative, utilisation des mêmes méthodes dans la guerre de l'image. Voilà, tout ça a le mérite d'être clair. En tout cas, le directeur n'a pas l'air d'avoir trop dirigé les dernières intrusions.
Prostitution, il y a un rapport parlementaire qui préconise la pénalisation des clients. Donc en fait, c'est un sujet qui est récurrent depuis l'élection de François Hollande et que ça soit au Parlement comme au gouvernement. Il y a tout un tas de monde qui s'active pour mettre en place une législation avec l'objectif de parvenir à une véritable abolition de la prostitution. Donc déjà en juin 2012, c'était Najat Vallaud-Belkacem, la ministre droits des femmes et égalité, qui avait affiché sa volonté de vouloir éradiquer la prostitution. Et les réactions, elles avaient été assez virulentes par rapport à ce qu'elle avait dit. Et Vallaud-Belkacem, elle envisageait une conférence de consensus et ça n'a jamais vu le jour tellement l'opposition avait été forte. Et le sujet a du coup été renvoyé au bon soin des parlementaires. Les parlementaires, en décembre 2011, donc avant le changement de majorité et tout ça, ils avaient adopté une résolution non contraignante qui rappelait la position abolitionniste de la France et qui appelait en gros à une société à terme sans prostitution. Et là, fin mars 2013, la ministre, elle a annoncé qu'il y aurait une proposition de loi sur la prostitution et sur la traite des êtres humains à peu près à l'automne. Et c'était un des engagements de campagne de François Hollande. Et en fait, hier, mardi 17 septembre, il y a des députés qui étaient menés par la députée PS de l'Essonne, Maud Olivier, qui ont présenté à l'Assemblée nationale, devant la délégation parlementaire aux droits des femmes, un nouveau rapport. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est une espèce de reprise des propositions qui avaient été portées en 2011 par deux autres parlementaires, Daniel Bousquet et Guy Geoffroy. Et ils les actualisent un petit peu. Et là, ce qu'ils proposent, ce qu'ils envisagent, c'est que, alors que jusqu'à présent, en fait, il y avait uniquement les prostituées qui étaient incriminées sur les questions de prostitution par le biais du délit de racolage, là, la députée, elle envisage de sanctionner les clients qui sont considérés comme des auteurs de violence. Donc, elle a rendu son rapport hier en disant que l'objectif de ce rapport, c'était de rendre notre territoire dissuasif pour les réseaux de proxénétisme et de traite. et de dissuader le client de pérenniser les situations de violence que son comportement crée et entretient. Bon, ça part un peu du principe que, de fait, la prostitution, ça va avec le proxénétisme, la traite, la violence, etc. C'est vraiment l'ancrage de tout l'argumentaire. Et donc, le rapport, il définit 40 recommandations et 4 piliers, et parmi lesquels il y a responsabiliser les clients et sanctionner l'achat d'actes sexuels. Donc c'est ce truc-là de la pénalisation des clients, c'est le point un peu le plus polémique. Et donc la parlementaire, ce qu'elle dit, c'est que le texte pose des interdits et que les sanctions seront pédagogiques. Alors accrochez-vous à vos guidons, parce que les sanctions pédagogiques, elles sont multiples et elles sont de la prévention à la répression. Et en tout cas, la députée, elle envisage la création d'une contravention de 5e classe qui sanctionne le recours à la prostitution et qui serait punie d'une amende de 1 500 euros, pédagogique, maximum. Et la récidive, ça serait un délit qui serait puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Ah oui.
Donc ça aussi, c'est pédagogique. Mais ce qui est un peu plus pédagogique et qui peut-être va vous faire marrer, c'est qu'elle propose également la création d'une peine complémentaire qui serait un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. Un peu sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou des stages de sensibilisation au danger des stupéfiants, vous voyez, des choses comme ça.
Mais qui vont faire ça? Ça va être des assos qui vont être réquisitionnés pour faire...
Ben, je pense que ça sera l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid, ou alors Oser le Féminisme, qui sont vraiment les assos qui soutiennent que tous les clients, c'est des personnes violentes, qui ne respectent pas les femmes, etc. etc. Alors, bon, le rapport, il propose aussi... éventuellement l'abolition du délit de racolage passif. Donc bon, le délit de racolage passif, il a été mis en place en France en 2003 et en fait il a été il est passé au Sénat cette année là il y a quelques mois, où le Sénat a voté l'abrogation de ce délit là qui finalement fait que précariser les prostituées de rue et les travailleuses du sexe et qui permet pas vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Et qui permet pas non plus de lutter contre le proxénétisme, ce qui était un peu à la base de l'objectif de cette loi. Alors le rapport, il prévoit aussi des nouvelles mesures de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, et du coup, ça pourrait être puni, le fait de solliciter des services sexuels contre l'acquisition, la promesse d'un logement, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle le proxénétisme de soutien, c'est tout ce qui fait qu'à un moment, on va aider les personnes... on va faciliter la prostitution, par exemple, en logeant, ou etc. Ce qu'il propose aussi, c'est une meilleure lutte contre les réseaux mafieux. Ça doit être un élément central. Donc ça fait un petit peu 15 ans qu'on en entend parler un peu partout dès qu'il y a des textes sur la prostitution. Parce qu'en fait, il part du principe qu'il y a 80% environ des femmes qui travaillent dans la rue qui seraient d'origine étrangère. Ce qui est vrai, en général, dans les grandes villes, il y a à peu près 80% des femmes qui sont d'origine étrangère, majoritairement africaines, d'Europe de l'Est ou alors d'Amérique latine. Mais du coup, ils partent du principe que c'est forcément des réseaux mafieux qui les ont amenées, alors que souvent c'est juste que c'est des femmes sans papier et que c'est pas, y a pas tant que ça une mafia autour de la prostitution, etc. Mais que c'est des personnes qui font les boulots qu'elles peuvent faire avec le statut administratif qu'elles ont. Alors eux, ce qu'ils disent, c'est que ils veulent faciliter l'accès au titre de séjour pour celles qui quittent le métier, pour faciliter leur réinsertion. Alors bon, la grande question, c'est toujours dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord qu'elles arrêtent et qu'après on leur file un titre de séjour? Donc ça veut dire que là, pendant 3 mois, 6 mois, comment elles bouffent? Et bon, bah voilà, il faut voir vraiment sur quoi ça va aboutir, en fait. Parce que là, c'est le rapport d'un groupe de travail. Ils vont travailler sur une proposition de loi et ils espèrent pouvoir la débattre fin novembre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la pénalisation des clients, ça existe déjà dans d'autres pays d'Europe. Et à la fin des années 90, c'est la Suède par exemple qui a légiféré comme ça. Et en fait, Najat Belkacem, elle était allée en Suède l'automne dernier et elle avait dit, ah mais il faut s'inspirer du modèle en Suède, c'est génial, parce qu'eux, ils ont pénalisé les clients. Et les clients, ils sont passibles d'une peine de prison, mais en fait, dans les faits, personne n'a été condamné. Mais il y a un sociologue qui s'appelle Lilian Massieu, qui bosse au CNRS, qui a un peu travaillé avant sur les questions de prostitution, et qui, bien qu'il soit abolitionniste et qu'il pense que la prostitution, c'est une violence, etc., lui, il dit que quand même, la politique suédoise, c'est de la poudre aux yeux, et que la prostitution, elle n'a pas diminué, et que ça a eu des conséquences dramatiques sur les prostituées. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même des personnes qui des abolitionnistes qui pensent que une loi comme ça, ça serait encore pire pour les personnes. Mais bon, c'est pas la majeure partie de l'opposition. La majeure partie de l'opposition, c'est plutôt les associations de prostituées qui défendent la liberté de chacun à disposer de son corps. Et c'est aussi des assos qui affirment que pénaliser les clients, ça risquerait d'aggraver la situation concrète des prostituées de rue. Parce que elles devraient... si les clients, ils sont inquiets, qu'ils ont peur de se faire arrêter, les prostituées, elles vont devoir se replier vers des endroits reculés et donc elles vont être plus vulnérables aux violences et moins accessibles aux structures de soins. Et du coup, là, il y a une des assos, la principale asso de travailleuses du sexe en France, le STRAS, a organisé un rassemblement hier pour protester contre la proposition de loi, en disant que voilà, il y avait depuis des années, les travailleuses du sexe et leurs alliés s'opposent à cette mesure et que ça dégraderait les conditions de travail et de vie. Donc, ils ont organisé ce rassemblement au moment où Maud Olivier, cette élue PS, elle s'adressait aux parlementaires, donc ils sont rassemblés devant l'Assemblée nationale, et ils étaient quelques dizaines. Et ce qu'ils disent en gros, c'est que l'approche prohibitive, elle échoue depuis des siècles, qu'ils ont envie de bosser comme ils veulent, que l'idée de pénaliser, c'est dangereux, que ça aura un effet négatif, que ça va pas leur donner des droits et que ça va les obliger à se cacher et à faire appel à encore plus d'intermédiaires pour se mettre en relation avec les clients. Et en fait, ce qu'ils soulignent aussi, c'est que en fait, on prétend lutter contre les réseaux par des lois comme ça, mais en fait, ce qu'on risque de faire, c'est complètement le jeu des réseaux et complètement de mettre les personnes dans une insécurité qui fait qu'elles auront besoin de protection. Donc, ils ont écrit un manifeste. Le STRAS a écrit un manifeste qu'il a fait signer à toute une palanquée d'associations. Le manifeste, en gros, ce qu'il raconte, il dit que toutes les associations et organisations qui signent, quelles que soient leurs opinions sur la prostitution, elles pensent que les prostituées ne doivent pas être pénalisées et que le délit de racolage public il doit être abrogé. Ils reviennent sur toute l'histoire de la précarisation, etc., que ça va produire pour les personnes. Et puis, ils soulignent aussi que l'isolement des prostituées, ça va les exposer davantage à un risque au niveau de la santé, et en tout cas à des contaminations au VIH et à d'autres infections sexuellement transmissibles. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que des textes comme ça, des lois comme ça, ça met aussi, ça renforce une espèce de statut d'inadapté social. C'est-à-dire, c'est des personnes, on les considère comme mineures, il faut qu'on prenne soin d'elles, il faut qu'on les protège, on les stigmatise, etc., etc. Et puis, dès qu'on leur demande jamais leur avis sur finalement leur boulot et leurs droits, et que du coup, ça les maintient dans une espèce de catégorie de sous-citoyennes entre guillemets, et que ça favorise la stigmatisation et les discriminations. Et donc, en fait, ce qu'il faut demander, c'est qu'il y ait une protection par le droit commun, quoi. Et ce manifeste, il a été signé par 190 assos, ce qui est quand même vraiment pas rien. C'est-à-dire, il y a des assos de travailleuses du sexe, mais il y a aussi il y a des assos de lutte contre le sida, mais il y a aussi Médecins du Monde, il y a aussi le syndicat de la magistrature, le planning familial, Solidarité Sida, etc., etc. Donc, c'est un soutien assez large qui est pour le coup vraiment chouette. Juste simplement, un dernier argument peut-être qu'on peut dire avant de terminer, c'est que à un moment, le fait de vouloir tarifer, le fait de vouloir pénaliser ce que des adultes consentants ils font de leur sexualité, c'est une ingérence assez grave dans la vie des gens. Et que la dernière fois qu'on a fait des choses comme ça, qu'on a légiféré là-dessus, c'était en 81 pour dépénaliser l'homosexualité. Donc ça allait dans le bon sens, mais là on risque de dépasser les bornes en se mêlant, en rajoutant des choses morales sur qu'est-ce que les gens ils doivent faire de leur cul en gros, alors que c'est des adultes consentants. Donc voilà, à suivre en tout cas, sûrement dans les semaines qui viennent, il va falloir être vigilant à tout ça et essayer de soutenir les travailleuses du sexe dans leur lutte pour leurs droits.
Alors, mercredi 11 septembre, comme vous le savez sûrement déjà, à Nice, il y a un braqueur qui s'est fait buter par un bijoutier. Il avait 19 ans, il était en train de partir, il était de dos, il s'est pris une balle, il est mort. C'est pas très rigolo, ça aurait juste pu passer comme d'habitude, comme un braqueur s'est fait tuer par un bijoutier ou par un banquier. C'est déjà arrivé. Le problème, c'est que là, on sait pas trop pourquoi ça fait un buzz énorme et tout le monde soutient le bijoutier. On comprend pas vraiment. Sur Facebook, puisque c'est de ça qu'on entend parler depuis une semaine, il y a 1 600 000 personnes qui aiment la page de soutien à ce pauvre bijoutier qui, ne vous inquiétez pas, n'est pas en garde à vue ni même en prison. Il est dans une maison sous surveillance apparemment, dont on ne connaît pas la localisation, puisqu'il semblerait qu'il y ait des pressions de la part de la famille dont personne n'a de preuve. Mais bon, il y a 1 600 000 personnes qui aiment cette page avec des commentaires du genre « Si les braqueurs étaient plus souvent abattus, ça les ferait réfléchir, il y aurait moins de braquages. » On ne voit pas comment, après avoir été abattu, on fera moins de braquages. Mais ce n'est pas vraiment très important, puisque en fait, ce dont on entend parler depuis le début, c'est qu'il y a un soutien énorme à ce type. Et ce que personne ne veut comprendre, c'est que c'est un soutien Internet. Ce qui fait que quand il y a eu une manif, lundi 16, il y avait 800 personnes à cette manifestation, dont bien sûr tous les pontes de Nice, comme Christian Estrosi, qui était venu apporter son soutien à ce pauvre bijoutier et d'autres acteurs dans son genre. Le fait est que sur Facebook, une autre page a été créée un peu en réaction le 15 septembre, une page de soutien au lapin qui a tué un chasseur. Et cette page a déjà 250 000 personnes qui l'aiment alors qu'elle n'existe que depuis 3 jours. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, les gens qui cliquent là-dessus sur Facebook, ils comprennent pas vraiment ce qu'ils font, a priori. Et on se retrouve avec des pages avec des millions de personnes qui participent, qui viennent nous expliquer que quand même les braqueurs c'est mal, qu'ils ont été mal élevés, tout ça, et que du coup il faut soutenir ces pauvres bijoutiers qui se font braquer. Mais bon, en tout cas, Régis Cauche, qui est maire de Croix, un village du Nord dont on se foutrait complètement d'habitude, s'est dit que lui aussi pouvait faire le buzz parce qu'il y a 200 Roms qui se sont fait expulser de l'île, qui s'installent dans sa ville, qui ont commencé à s'installer dans sa ville dans les dernières semaines. Et ce maire nous prédit un dérapage comme le bijoutier de Nice. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens comme je le raconte, mais c'est parce que dans son esprit, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. On ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train d'essayer de rapporter. Est-ce qu'il considère que l'existence même des Roms est un délit ? Qu'il apparenterait à un braquage en l'occurrence, on comprend pas vraiment. En tout cas, il prédit qu'il y aura un dérapage, et surtout ce qu'il tient à indiquer, c'est que si un croisien, donc un habitant de sa ville, commet l'irréparable, il le soutiendra. Ça, il l'a dit samedi, il l'a confirmé lundi en disant que les Roms n'avaient rien à faire à Croix et que oui, s'il y avait un dérapage, il apporterait son soutien car sa population en a assez. Donc à ce maire de Croix, on a un peu envie de lui dire que déjà le bijoutier, il a tué quelqu'un, donc déjà c'était pas génial, c'était pas de la légitime défense, encore une fois, le type était de dos. Mais lui, ce qu'il fait, c'est un appel à la violence, même un appel au meurtre. Et on comprend pas vraiment comment un magistrat, donc un maire d'une ville, peut s'autoriser à faire un appel à la violence. Et donc la voix des Roms lui a fait une réponse que je vais vous lire, une réponse très courte et très simple, qui dit « Il se répand en France et en Navarre une odeur de pourriture avec des actes et des paroles d'êtres qui, contrairement à ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, ne semblent pas doués de raison. » Un des plus récents en date, Régis Cauche, de surcroît maire, a déclaré soutenir a priori quiconque commettrait l'irréparable contre un Rome. La voix des Roms n'a pas pour but de promouvoir la violence. Cependant, face à une telle menace, si un Rome en état de légitime défense commettait l'irréparable sur la personne de Régis Cauche, il aurait le plein soutien de l'association. Voilà, et ben on a envie de leur dire qu'il aurait le plein soutien aussi, et qu'il aurait probablement le plein soutien de pas mal de personnes, parce que ce maire, on comprend quand même vraiment pas ce qu'il a voulu nous dire.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là. La mort ne vient pas seule, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre, le regard des curieux communique linceul, c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux sans venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, et je suis pas raciste, mais quand même les bicots, Chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent, qu'on est un être humain, même si on est truand, et que ma mise à mort n'a rien de légitime. Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère, dit un père béret basque, un jeune blouson de cuir. Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère, réponds jeune pour finir. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire, convaincu que déjà on a méché le diable, que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je ne suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence, c'est bien fait pour sa gueule, ce n'est qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour sa peau, elle n'a pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort, qu'il soit flic ou truand. Elle s'en fout sa pudeur, comme ses quelques larmes réchauffe le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, on sent coule au ruisseau. C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent de la Meuse.
Bonsoir. Cette semaine, l'actualité politique me permet de briser la routine. C'est vrai qu'il faut arrêter de saouler l'auditeur moyen avec toujours les mêmes histoires, parce qu'au bout d'un moment, il risque de se faire chier. Je vais donc commencer en parlant de l'UMP et vous décrire l'ambiance chaude et fraternelle qui y règne en ce moment. Mais non, je déconne, en vrai c'est comme d'habitude, il y a encore grave du rififi au sein du plus grand parti des porteurs de valises de France. Je vous l'accorde, l'embrouille n'est pas à la hauteur de celle des personnages d'un film de Michel Audiard. En effet, s'ils trempent dans le même genre d'affaires et s'ils partagent avec eux la même roublardise, il leur manque encore le talent du verbe. Cette semaine donc, à l'UMP, le cave se rebiffe. Vous voyez donc de qui je veux parler.
Fillon.
Non. Bon ok, c'est vrai, là, niveau cave, il y a du choix. Indice, terrible attentat salafiste sur pain au chocolat.
Copé.
Oui, bien joué. Jean-François Copé, donc, a décidé, fini d'être sympa avec Nicolas Sarkozy. Après...
adolescence.
Après les 11 millions d'euros de trous de l'UMP suite à l'invalidation des comptes de campagne de Sarkozy, remboursés grâce au Sarkoton, il reste 516 645 euros de pénalités à rembourser, plus 15 000 euros dépensés pour la lettre de remerciement envoyée par Nicolas Sarkozy aux généreux donateurs.
Il lui crame toutes les tuiles.
Et là, le lèche-mocassin transformé en tonton flingueur, J.F. Copé lance sa lettre, il la paiera. Malgré sa soudaine agressivité, il propose quand même quelques pistes pour effectuer le remboursement. D'abord, lance-t-il, il n'a qu'à faire quelques conférences, ça lui permettra de récolter les fonds nécessaires. On sait que M. Bling Bling, lors de ses conférences, cachetonne à 250 000 euros les 45 minutes, ça paraît effectivement être plutôt une bonne idée. Et puis, la deuxième piste de Copé, qui constitue une véritable révélation, est dans cette phrase qu'il a lancée à tout hasard. Ils sont pleins de fric à l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy. Eh oui, on balance tout sur les histoires d'argent, maintenant que le Parti Socialiste a mis la transparence à la mode. Merci donc au Parti Socialiste qui a fait de la transparence et de la clarté son cheval de bataille, et cela aussi bien sur les mouvements de capitaux que sur la communication politique. Petite démonstration avec la mise en place de la pause fiscale par le gouvernement. Le 30 août dernier, François Hollande, qui prend en compte le ras-le-bol fiscal des Français, parle de la nécessité d'une pause fiscale immédiate et déclare « En 2014, nous aurions pu poursuivre cette trajectoire d'augmenter les impôts. Mais qu'est-ce que j'ai décidé ? D'aller niquer sa race à Bachar el-Assad !» je me suis trompé de réplique, je reprends. « Mais qu'est-ce que j'ai décidé ? De faire d'abord des économies. » Deux jours après, le 1er septembre, Jean-Marc Ayrault annonce « Cette promesse ne sera en fait effective qu'en 2015. Il y aura seulement un ralentissement en 2014. » Une semaine après, le gouvernement se rend compte d'une incompréhension grandissante et envoie sa porte-parole régler le problème. Najat Vallaud-Belkacem explique donc, c'est là qu'il faut se concentrer, « Concrètement, nous commençons bel et bien dès l'année 2014, la pause fiscale, qui se confirmera en 2015. Il n'y a aucun coin entre le Premier ministre et le Président. Les choses en la matière ont toujours été claires. Stabilisation des prélèvements en 2015. » Voilà. Tous ceux qui ont déjà réussi à comprendre un agent d'assurance qui leur explique pourquoi ils ne seront pas remboursés n'auront eu aucun mal à tout saisir. Pour les autres, arrêtez d'écouter le gouvernement et descendez dans la rue. Tant qu'on est dans la transparence, des nouvelles de notre bon vieux Jérôme Cahuzac, notre honnête ancien ministre du budget. En effet, la Nadine Morano du Parti Socialiste n'en rate pas une. Ayant été convoqué deux fois par la commission d'enquête parlementaire pour qu'il s'explique au sujet de ses comptes en Suisse, Jérôme Cahuzac se sent floué. Et comme c'est pas le genre à se laisser marcher sur les pieds et que les temps sont durs quand même, il demande le remboursement de ses frais de transport engagés pour venir répondre aux deux convocations de la commission d'enquête. Il réclame donc le prix d'un plein d'essence pour le trajet Villeneuve-sur-Lot-Paris et d'un billet de train aller-retour pour le même trajet. Réponse de la commission d'enquête, à votre avis ?
Oui.
Mais bien sûr.
Et non, il refuse.
Ah.
Et il refuse pour les deux demandes. Au motif que... Eh bien, qu'après enquête, il s'avère que M. Cahuzac possède un logement à Paris. Bon, enfin, allez... Petite info de dernière minute, Dominique Strauss-Kahn a été nommé conseiller économique du gouvernement en Serbie. En Serbie. Non mais sans déconner, faut arrêter là. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore la guerre là-bas. Un peu de pitié, merde.
Alors, ce matin en Grèce, une personne a été interpellée en possession d'un couteau. Elle a reconnu avoir participé à une rixe pendant la nuit qui l'a opposée à des jeunes gauchistes. Une perquisition était en cours mercredi dans les locaux du parti d'Aube Dorée parce que la police soupçonnait cette personne de faire partie de ce sympathique parti aux appointances néo-nazis. Et l'homme a fini par avouer appartenir à ce parti politique. La victime, qui est décédée ce matin à l'hôpital, était grièvement blessée, donc elle avait reçu un coup de couteau dans le poumon, si je ne me trompe pas, dans une petite ville, la banlieue d'Athènes, qui s'appelle Kératini. Donc voilà, le jeune homme était un chanteur de hip-hop de 34 ans, Pavlos Frissas.
C'est relou les noms grecs.
Pavlos Frissas, on va dire. Qui était sympathisant du petit parti d'extrême gauche qui s'appelle Antarsia. Je suppose que ça se prononce pas du tout comme ça. Donc voilà. Donc pour voir un peu l'ambiance de dans cette région, dans une commune voisine, il y a vendredi, 8 militants, alors jeunes communistes, donc bon, je suppose que c'est le KKE. Qui avait été blessé dans une attaque de la part de néo-nazis, d'une vingtaine, alors qu'il collait des affiches. Voilà. C'est un peu la fête en Grèce en ce moment. I'm not a desperate man with a jewel I take from Peter to go and pay full sunrise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole? The world is more than stuff.
Rien à voir. Alors, Berlin ne veut plus de Veolia dans sa ville. Alors, j'ai trouvé cette nouvelle assez intéressante parce que, pour donner un petit exemple, parce que qui c'est qui gère l'eau à Lyon ? C'est cette multinationale Veolia et qui n'hésite pas à augmenter les prix. Donc, voilà l'histoire pour Berlin. Donc, Veolia quitte par dépit la capitale allemande, poussée vers la sortie par ses habitants. Et comme à Paris, il s'agit en fait d'une remunicipalisation du service de l'eau obtenue de haute lutte par les citoyens berlinois. Donc il y avait eu un contrat avec Veolia qui avait été signé en 99. Il représente alors le plus important partenariat public-privé de l'histoire en Allemagne. Et donc Veolia s'était associé à l'entreprise énergique allemande RWE. Et tout leur contrat était sous secret en termes de parts et de pourcentage. Donc face à l'augmentation des prix de l'eau, les citoyens berlinois organisent un référendum populaire en 2011. Donc ça, c'est des possibilités qui sont prévues par la constitution berlinoise. Et malgré l'opposition acharnée des gouvernements de la ville, 606 000 berlinoises, soit plus d'un quart de l'électorat, prennent part au vote et se prononce massivement pour la divulgation des contrats et le retour sous régie publique. Et donc, la Commission européenne et la Commission allemande de la concurrence s'en mêlent également, et en regardant, ils estiment que le contrat signé avec Veolia viole la loi allemande et impose une baisse de 18% du prix de l'eau. C'est pas rien quand même, 18%. Bref, la ville état de Berlin, aujourd'hui à nouveau gouvernée par une grande coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs, se disent que bon, vaut mieux lâcher l'affaire face à la pression, et donc décident de remunicipaliser le service. Et Veolia, bien sûr, a annoncé publiquement avoir trouvé un terrain d'entente avec les autorités berlinoises, plutôt que de dire que cette multinationale française était contre la remunicipalisation. Donc l'entreprise présente ce retrait comme un plan d'économie du groupe pour éponger sa dette. Donc ça, c'est la version qui a été relayée par la presse française, ce qui cache bien sa lutte acharnée contre la remunicipalisation et qui lui permet de garder la face. Mais le problème est que Veolia empoche un bon pactole en se barrant, ce qui effraie du coup les militants, les gens qui ont lutté pour la remunicipalisation, et ils craignent que le coût de la cession ne pèse sur la gestion du service pendant de nombreuses années. En gros, ce que ça veut dire, ce qui empêcherait la future baisse du prix de l'eau dès cette année, comme il y a de l'argent qui part, quoi. Et à Paris, comme il y a eu le même truc, c'est ça qui s'est produit suite au passage en régie sous l'égide d'eau de Paris. Là, ils racontent qu'ils n'ont pas pu baisser les prix de l'eau parce que Veolia continue à empocher. Du moins, il faut éponger la dette de Veolia, quoi. Donc, les partisans du service public estiment que Veolia et RWE ont déjà engrangé suffisamment de profits depuis 1999 grâce à la hausse des prix et à la réduction drastique des effectifs, des travaux de maintenance et des investissements effectués. Et donc, plus généralement, l'Allemagne connaît depuis quelques années un vigoureux mouvement de remunicipalisation des services publics. Et le 3 novembre, les Berlinois se prononceront dans le cadre d'un nouveau référendum populaire sur le retour en régie publique de leur réseau de distribution d'électricité. Ce qui sera peut-être plus intéressant que l'élection de dimanche. Mais bon. Et alors, oui...
C'est l'élection de dimanche.
Ah, ils réalisent leur... C'est l'élection de la présidence.
Ah.
Alors, c'est sûr, ça ne révolutionne rien et les entreprises profitent bien du système capitaliste. Mais il est quand même intéressant de constater ce revirement politique et économique après le tout privatisation de ces 20 dernières années. Il y a un retour, on peut voir avec ça qu'il y a un retour à d'autres manières de gérer. Much more than a penny or a farthing. I've grown no joke. I hope you're not laughing. Poet or pauper.
Wish to your classrooms. Speak eloquent. Though I am resident to the gritty in the city. Alors, dans la série, l'État a les poches trouées. Il y a un rapport donc, qui a été commandé par la Commission européenne. Je crois une succursale belge. Je sais plus. Enfin bon, un groupe quelconque d'experts en expertologie sur la gestion de la TVA en Europe. Et donc, ce rapport, ce qu'il montre, en fait, c'est qu'il y a à peu près, pour la totalité de l'Europe, 193 milliards d'euros, soit 1,5% du PIB européen, qui disparaît en n'allant pas dans les poches de l'État au titre de la TVA. Alors, en proportion, c'est les Roumains, les Grecs et les Lettoniens qui sont le plus fort au jeu de faire disparaître la TVA. mais par contre, en valeur, cocorico, enfin pas vraiment parce que c'est d'abord les Italiens, donc je sais pas comment on dit pour les Italiens.
Kikiriki,
voilà. Donc c'est d'abord l'Italie avec 36,1 milliards d'euros, ensuite la France avec 32,2 milliards d'euros, suivi par l'Allemagne, 27 milliards d'euros, le Royaume-Uni, 19,5 milliards d'euros. Donc voilà, donc c'est la fête. C'est la fête à la TVA qui disparaît. Alors, comment elle disparaît ? Ce qu'on nous dit, c'est que pour 10 millions d'euros, c'est la fraude à la TVA. Pour la France, en tout cas, parce qu'on n'a pas trop les chiffres détaillés pour le reste du monde, de l'Europe. Pour la France, donc, c'est 10 milliards d'euros pour les fraudes. Des impayés dus à la crise, alors ça, je ne comprends pas bien ce que c'est. Et 10 milliards d'euros du système d'optimisation fiscale. Donc voilà, c'est la fête. Si vous voulez vous faire du pognon en ce moment, grillez la TVA, mais vous ne pourrez pas parce que vous n'êtes pas une assez grosse entreprise.
C'est l'heure du professeur.
Ah bon?
Parce que sur le fil, normalement, il y avait deux infos, mais on les fait sauter parce qu'il n'y a pas assez de temps.
C'est ça, c'est parce qu'il y a des pièges en fait. On se tend des pièges mutuellement.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors on va continuer à parler de ces fameux assauts à la frontière de Ceuta et Melilla, parce que on continue à en parler, parce que ça se passe quand même à peu près toutes les semaines en ce moment. Là, c'est passé hier, environ 300 migrants et migrantes ont tenté de franchir la frontière de Melilla. Plus d'une centaine ont réussi à passer. Ils ont ensuite été arrêtés et placés en centre d'accueil temporaire des migrants, qu'on appelle CETI, CETI. Ces lieux, moi j'ai appris leur existence en lisant les infos, j'ai essayé de chercher des infos, j'ai pas trop trouvé, je rechercherai pour plus tard. Mais en gros, a priori, c'est dans ces lieux où théoriquement ils pourront faire une demande d'asile, ce qui leur permettront ensuite de rejoindre l'Espagne, comme Melilla c'est une enclave espagnole. Dans le même temps, 350 personnes ont tenté de franchir la frontière à Ceuta, alors c'est une autre enclave espagnole au Maroc. 91 y sont parvenus et elles ont été également placées au centre d'accueil temporaire des migrants de Ceuta.
Faut que ça sache.
Il faut que ça sache.
Ensuite, on fait un tour du côté de la Libye. Et alors là, attention, accrochez-vous. Le pouvoir libyen a eu la formidable idée de convertir un zoo abandonné en centre de rétention pour migrants. Vous avez bien entendu, il n'y a pas de bug dans votre radio. Le projet s'est fait en partenariat, bien sûr, avec plusieurs États d'Europe et notamment l'Italie, car c'est notamment depuis la révolte libyenne que Lampedusa est devenu un lieu stratégique pour les migrants et qu'on en a pas mal parlé sur cette antenne de tous les migrants qui se rendaient sur Lampedusa pour ensuite rejoindre l'Europe. Côté fonctionnement de ce centre, chaque personne arrêtée sans document montrant qu'elle est entrée en Libye de manière légale sera conduite dans ce centre pour une durée de 72 heures. Pendant ce temps-là, les autorités vont tenter d'identifier la personne et vont soumettre chaque personne. Et vont soumettre chaque personne enfermée à des tests de maladies comme le sida ou l'hépatite. Si une personne est porteuse d'une de ces maladies, elle sera expulsée dans les plus brefs délais. Le chef de la lutte contre l'immigration clandestine déclare que si les gens sont là de manière régulière et qu'elles ne sont pas porteuses de maladies, alors si ces deux conditions sont retenues, elles pourront rester. Donc, vous avez bien compris que si la personne avait un visa mais qu'on a découvert qu'elle avait une maladie type sida ou hépatite, elle va dégager. Pour les autres, elles seront dispatchées dans d'autres centres de rétention pour une durée indéterminée. Les flics qui surveillent ce centre, alors les flics, on ne sait pas trop si c'est une milice privée ou une milice publique, sont également ceux qui sont chargés de traquer les sans-papes, hein, comme la PAF en France. Par exemple, ces 4 derniers mois, ils ont chopé plus de 5000 personnes qu'ils ont conduites dans les différents centres de rétention du pays. Et pour couronner le tout, grâce à ce magnifique projet de lutte contre l'immigration, la Libye a reçu plein de thunes de l'Europe, comme ça se faisait déjà sous Kadhafi. Parce que c'est quand même bien plus pratique pour les pays européens, comme ça ne se passe pas sur le sol européen, comme ça très peu d'assos européennes vont aller mettre leur nez sur les conditions d'incarcération, par exemple pour dénoncer le fait qu'on impose des dépistages d'hépatite ou de VIH aux migrants, que les durées d'incarcération sont illimitées, ou en tout cas la durée est complètement floue, que les gens sont dans des conditions horribles, tout ça. Voilà, en tout cas, l'Europe forteresse a encore de belles années devant elle.
Il faut que ça se sache.
Maintenant, on va parler de la frontière entre la France et l'Angleterre, puisqu'il va y avoir ce vendredi une nuit de veille avec les exilés de Calais. Ça va s'organiser à partir de 19h sur la place de la mairie, et ce pendant toute la nuit. Et pourquoi toutes les assos calaisiennes se rencardent ce jour-là? Une fois de plus, des fermetures de squats, une fois de plus, une reprise accentuée des interpellations faciales en ville, fermeture et expulsion du moindre refuge, harcèlement des migrantes qui sont épuisées. Et parmi eux, des demandeurs d'asile qui ne sont pas illégaux. Parmi eux, nombre de Syriens dont la France se veut le défenseur au niveau international. Donc toutes ces personnes contraintes à fuir le pays subissent ici une traque, des violences, des menaces. Et le 5 septembre, ça en avait pas mal causé parce qu'il y avait eu l'expulsion du hangar surnommé la Beer House, rue Mouron, à Calais, où s'abritaient plus d'une centaine de migrants. Voilà, donc une nuit de veille organisée par les assos et les migrantes pour réclamer au pouvoir public un gel des expulsions pour trouver des solutions d'hébergement.
Et pour rappel, il y a plein de gens de collectifs à Calais qui s'organisent pour choper un local, pour louer un local, pour que ce soit pas un squat et que les flics ils arrêtent de mettre à fond la pression. Du coup, ils sont un peu en recherche de thunes pour un chouette projet. J'ai pas d'adresse internet, mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver un endroit pour leur donner de l'argent. Alors si vous tapez des trucs genre No Border ou des trucs comme ça sur internet, si vous avez un peu de thunes, je pense que c'est le moment de leur en envoyer.
Oui, on en avait parlé aussi avant l'été, comme il y avait un festival en soutien à ça. Et puis ils vont organiser un festival fin octobre, début novembre, je pense, mais on en reparlera aussi.
Il faut que ça se sache.
Et on retourne du côté des alentours de Paris, et à la fin du mois, le centre de rétention administrative de Méline-Lamelot va accueillir une salle d'audience du juge des libertés et de la détention. Alors, on le répète, le JLD, comme on l'appelle, c'est celui qui prolonge ou pas la rétention, en vérifiant notamment si l'arrestation a été faite de manière régulière et si la personne présente des risques de fuite. Du coup, ça c'est pour la première, c'est si ça n'a pas été fait de manière régulière, la personne est juste relâchée. Si la personne ne présente pas de risque de fuite ou a des garanties de représentativité, comme on dit, c'est-à-dire que si elle a un chez-soi, tout ça, et ben ça veut dire que juste elle va pas dormir en centre de rétention, mais qu'elle sera assignée à résidence. C'est une mesure qui a été prise sous le gouvernement Sarkozy et qui est bénie par notre cher ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. L'argument public est de réduire le coût des transferts du centre de rétention jusqu'au tribunal, parce que il faut dire que ça leur coûte quand même un peu de la thune de faire des navettes entre les centres de rétention et les tribunaux, tout ça avec des escortes de flics, tout ça. Sauf que tout le monde s'attend à ce que, avec cette mesure d'exception, une justice d'exception et expéditive soit faite. Plusieurs avocats s'opposent à cette mesure en disant notamment que la justice doit être rendue au cœur de la cité, pas sur une piste d'aéroport. Ce qui veut effectivement dire que même si ces audiences sont publiques, ils seront de fait beaucoup plus difficiles d'accès, car les aéroports, on le sait, sont toujours très loin des villes. Taubira est un tout petit peu moins chaude que son collègue Valls. Elle dit que le lieu où l'on rend la justice n'est pas anodin. Bah, c'est vrai que décider de la remise en liberté ou non d'un sans-papes au pied des pistes de l'aéroport, on se doute bien que le but recherché, ce n'est pas réellement de le remettre en liberté. De telles salles avaient déjà été créées en 2000 à Toulouse et à Marseille, mais avaient été invalidées par le Conseil constitutionnel car les conditions d'accueil du public n'étaient pas conformes aux normes actuelles. Alors là, on ne sait pas si c'est les normes qui ont changé ou s'ils vont modifier 2-3 trucs dans les salles pour que ça corresponde aux normes. En tout cas, ça avait permis qu'il y ait un rapport qui soit réalisé en 2007 par la CIMAD et la LDH, un rapport qui montre une incidence claire sur les rendus du jugement. Ce rapport, il a été fait sur les salles de Toulouse. Il montrait que les audiences sans public avaient sensiblement augmenté et que les décisions de libération de migrants avaient chuté du coup dans ces mêmes salles. Et qui, du coup, au niveau des chiffres, c'était passé de 6,25% de décisions de libération de migrants à 2,4%.
Wow.
Donc voilà, si on avait encore des doutes sur le fait que faire des espèces de justice où déjà qu'elle est quand même pas terrible, mais à côté des centres de rétention, c'était juste pour un moyen des moyens techniques et économiques. Maintenant, on peut se dire qu'il y a peut-être autre chose dessous. If you made it for gain the whole world, but sell your own soul for the price of a pole. The world is
monster, and I am starving. I want much more than a penny or a farthing. Alors, une nouveauté en matière de traitement du sida en Afrique. Il y a un programme qui vise à mesurer l'efficacité des traitements antirétroviraux qui sont donnés aux malades du sida en Afrique. Qui a été lancé le vendredi 13 septembre. Donc en fait, ce programme, il s'appelle, c'est un programme de test de charge virale. Et ça va durer d'abord 2 ans, ça va concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Cameroun, en Guinée. C'est l'asso qui met ce programme en place, c'est UNITAID. C'est une grosse orga internationale qui finance ce projet en fait. Donc en fait, actuellement, il y a 8 millions d'habitants de pays en développement, et pour la plupart qui viennent d'Afrique, qui suivent des traitements antirétroviraux. Et d'après les statistiques de l'ONU SIDA, les 25 pays les plus frappés par le VIH sont tous africains. Donc en fait, donc Philippe Duneton, qui est le directeur général de UNITAID, il dit que l'accès au traitement des antirétroviraux, c'est très bien, mais quand on a le test de charge virale, on peut vraiment observer l'efficacité du traitement et déterminer la meilleure manière de les prendre. Un test de charge virale, c'est quoi? C'est simplement, quand on est contaminé par le virus du sida, on a les défenses immunitaires qui chutent et on a la quantité de virus dans le sang qui augmente. La charge virale, c'est ça, ça permet de mesurer la quantité de virus. Et en fait, le but d'un traitement, c'est de faire remonter l'immunité et c'est de faire baisser la charge virale et de la limiter. Donc, si on donne des traitements, ce qui est bien, c'est de pouvoir mesurer comment ça marche et si vraiment ça a limité la quantité de virus dans le sang ou pas. Donc, c'est un peu le but de ce programme qui est mis en place. Donc, En fait, bon, l'intérêt il est double, c'est qu'on voit vraiment l'adaptation du traitement. Donc ça stoppe l'évolution de la maladie, ça fait que la personne elle va pas mourir de ça, enfin peut-être éventuellement d'autres pathologies associées, mais voilà, on meurt moins vite. Et en fait ça permet que les gens soient beaucoup moins, enfin que les risques de transmission soient moindres parce que les gens ils sont moins contagieux entre guillemets. Enfin, j'aime pas dire contagieux, c'est pas une maladie contagieuse. Et du coup voilà, ces tests de charge virale ils sont déjà pratiqués en Europe et aux États-Unis et en fait ils étaient très faiblement utilisés en Afrique à cause de leur coût et en fait il y a un nouveau test qui a été fait et c'est la raison de la mise en place de ce programme qui est assez simple et peu coûté il a été inventé par une biologiste française qui s'appelle Christine Rousiou. Donc voilà, ils espèrent que ce test aura un impact sur le ralentissement de l'épidémie. Parce qu'en plus, les patients ils pourront avoir un peu la preuve de l'efficacité de ce traitement quand ils verront que leur charge virale, elle augmente pas. Et voilà, c'est un projet qui coûte de la thune, mais ça coûte tellement de millions de dollars que je ne sais même pas s'il faut vous le dire. Mais en même temps, ce n'est pas grave parce que c'est une initiative de santé quand même mondiale. Et les fonds pour ce truc-là, ils proviennent à 70% d'une taxe qui est prélevée sur des billets d'avion. Donc tant mieux, hein, si c'est les riches qui payent pour que les pauvres y soient soignés. Pour une fois, c'est pas plus mal.
Ils devraient aller en parler en Libye.
Oui, par exemple.
Centre de rétention en zoo.
No joke, I hope you're not laughing, poet or pauper. Wish to your classroom, speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street or road by any other names.
Eh ben, c'est bientôt la fin de ce Canu Info et on va vous quitter sur une petite météo avec des bonnes nouvelles. Parce que, eh ben, y a notre pote l'anticyclone des Açores qui se raboule. Alors, l'anticyclone des Açores, nous, on l'aime bien parce que c'est celui qui, en général, qui amène le beau temps. Alors ça va s'améliorer ce week-end, mais on va commencer par demain. Demain le ciel sera encore couvert, mais avec de belles éclaircies. On aura des températures qui iront de 12 degrés le matin à 19 degrés l'après-midi. Vendredi, le ciel se dégage et le soleil fait encore plus son apparition. Bon, les températures au petit matin seront un peu plus corsées. On aura 9 degrés le matin et on ira à 21 degrés l'après-midi. Samedi, ça commence à être assez cool. Le soleil est là et bien là. Quelques nuages viendront le voiler de temps en temps. Mais le matin, on aura 11 degrés et 22 degrés l'après-midi. Et dimanche, normalement, il va faire encore meilleur et plus de nuages et les températures devront peut-être.
Quand leurs chiffres, ils n'ont pas réussi à contester, c'est au Caire. Le Caire, le nom, il a remporté. Et du coup, ça montre quand même un truc d'opposition. Et dans le gouvernement.